L'autre jour, elle s'était à close au Père Loucoucute. Donc, une journée en l'honneur de Max Roquette, une journée en l'honneur de Max Roquette, dans un cycle qui en compte de nombreuses. Et on est venu repérer, il y a déjà 3 mois, la succession des plantes qui pouvaient donner lieu à une citation de Max Roquette. Donc, nous ne verrons que les plantes pour lesquelles j'ai une citation pertinente. Oui, évidemment, il y aurait de quoi herboriser la journée complète.
Il m'exprimente l'omira, il m'exprimente l'octobre de novembre. C'est du maïmo, caïmé le frais, caïmé l'agnos, l'agnos maï.
Alors, vous prenez votre texte et on commence par des positions générales de Max Roquette par rapport à la nature, qui sont fondamentales pour comprendre l'œuvre de Max Roquette. Sans en prendre clairement conscience, j'éprouvais le sentiment obscur et fort mélangé d'entrer par l'intermédiaire de notre langue en communion avec les êtres et les choses. Terre, roche, bois, herbes et plantes, arbres, et même montagnes, horizons, nuées, et toute la richesse que la nuit scintillait doucement à mes yeux. On a l'univers de Max Roquette résumé dans cette phrase, une cosmogonie parfaite entre les êtres et les choses, animés ou inanimés. Il n'a pas ajouté ici les animaux, mais il aurait pu le mettre, puisqu'on a beaucoup de nouvelles où il fait intervenir des animaux. Et lui-même, nous verrons, n'est qu'un vieux roure parmi tout ce vivant. La deuxième phrase fondamentale, qui c'est qui veut lire? Parce que moi, j'aimerais bien que les gens cessent à l'occitan. Allez.
Las plantas son nostras como son nautres.
Ah, voilà. Alors là, c'est très subtil sur le plan de la rédaction, hein, un jeu de mots entre nostros et nautres. Hein. Elles sont à nous comme le sont nous-mêmes. Et Marx se plaçait dans cette situation-là. Et voilà ce que dit Marx, qui fait raison à ce que vient de chanter le Cucut, hein, sur la mort. Lui, il se voyait vieux. Qui c'est qui veut lire la suivante? Allez, lancez-vous.
À qui Josiane.
Laquelle il faut lire?
Une vieille
roire qui a bien parti des générations de palumbos et de tridos, une fin de plumes qui rodine son vieil corps, et qui a ses cabos d'Aïchi, d'Alaï, quelques simelo.
Alors, voilà une description. On ne passera pas à côté de vieux roues, sinon on perdrait du temps. Il y en a un là-bas et il y en a un là-haut que je vous montrerai.
Une roue de Casaco?
Donc, un chêne blanc, hein, un vieux chêne blanc. Alors, c'est très joli cet échange entre, façon de parler, entre le roure et les chasseurs. S'il est plombé, hein, le vieux chêne, il est plombé comme les palombes sont plombées par les chasseurs. Et lui-même, troisième citation, qui veut lire? Lui-même, Max Rouquette, se sent souille comme une vieille roure. Qui? Allez.
Souille comme une vieille roure. Qu'avis fugi d'une louvain d'Elzan, louré volume de sa furios et de sous jours. Et qu'avis se désépara de sa car, las branco pudérousso, que semblava tenir le sel.
Voilà. Donc vous avez les traductions, vous n'avez pas de texte, madame, c'est pas normal.
J'en ai plus.
Non, et on m'a plus.
Et en d'oreilles, quand même, Perrausi. En les oreilles et le cervelle, tu as compris.
Voilà. Alors, je suis comme un vieux chêne qui a vu fuir dans le vent des années le tourbillon de ses feuilles et de ses jours, et qui a vu se séparer de sa chair les branches puissantes qui semblaient soutenir le ciel. Bon, là, on peut philosopher pendant 2 ou 3 jours. Sur l'importance des vieux arbres et leur sacralisation, parce qu'on a ici l'image de l'arbre sacralisé parce qu'il converse avec le ciel, parce qu'il soutient le ciel avec ses branches. Et les humains, pauvres humains, ils sont peut-être un peu moins que des vieux chênes, sinon avec beaucoup de prétentions, si on prétend soutenir le ciel avec nos corps. Hein. Et on a ici le double humain-végétal qui fonctionne pas seulement en culture occitane, mais dans toutes les cultures du monde, avec des images qui peuvent changer. Le genre de la plante, le nom de l'arbre peut avoir une signification différente selon les cultures, mais le chêne, généralement, c'est l'image de la force. C'est robur en latin qui a donné robuste, d'où le nom occitan rouvé ou rouré. Donc, tout est lié, on va voir ce matin une intrication complète, langue, culture, paysage, nature. Voilà. Alors on avance quelques mètres, puisqu'en plus on va avoir la route à nous.
Et après, c'est continué la passeggiata. Et après, donc on continue la passeggiata.
Et oui, c'est sur la carrière qui s'est dirigée de Martinet à Assas. À l'époque, que à Assas, Béléo travaillait la lana et à Martinet, nous faisions la derrière face au moulin de Martinet. Et à cause d'une part des clapiers, encore que la nature y est démourée, ou plus léo que la nature a tourné à conquistar des camps qui furent travaillés au siècle passé ou fins au siècle passé. Et ici, est une omeno de plano tranquille, mais la végétation, les plantes qui gagnent. Et là, Giuliano carpateggio pour arriver à la seconde station de la passeggiata.
Bonne caminata.
Plein merci.
Mettez-vous sur le côté.
Ah, mais formidable!
Aïe, c'est Arcadine Lombre.
Oui, c'est
prêt. Texte de Max Houquette.
Aïe, Arcadine Lombre, j'ai cherché dans l'ombre. Alors, c'est une chanson où apparaît l'herbe, l'herbe du chemin, l'herbe, la pierre lisse. Alors, je vous donne la traduction. J'ai cherché dans l'ombre l'herbe du chemin et la pierre lisse comme un parchemin. J'ai trouvé la lune qui faisait danser toutes les bêtes sauvages au milieu d'une clairière. J'ai cherché dans l'eau ton reflet fragile. Un rayon de lune s'y était noyé. Moi, au début de l'aube, à la prime aube, je suis parti. Rosée ou larme, mon cœur était tout trempé. Alors, on trouve donc là aussi, alors je ne reviens pas sur le commentaire que tu as fait, on trouve un élément supplémentaire qui est l'eau et aussi la lune, dont on verra que ça fait partie des métaphores obsédantes de Max Houquette. Alors, et ça donne donc, maestro.
Aïe, cerca di l'ombre, l'herbe del camin, et la pierre lisse comme un pergamine. Aïe, trouva la lune qui faisait danser, toute la fête nous a mis tant d'une clare. Aïe, cerca di l'aigle, ton terre bleu, une raille des lunes, c'est erroné. Ye wala prima bo meso enana Ay gachou la grève mon corps tout bagna Ay cerca di l'ombre l'herbe del cami Et la paix au lisse comme un pergamin Ay trouva la lune que fasio dansa Toute la fée de nos habitants du clan, toute la fée de nos habitants du clan.
La férune, les bêtes sauvages. On avance de quelques mètres pour évoquer alors un futur volontaire pour lire le texte numéro 4. Ah, c'est parfait. Avancez encore. Donc, vous essayez d'identifier les quelques arbustes que vous avez devant, les fleuris, au loin là-bas. Hein. Donc, c'est le même paysage que tout à l'heure. Un exermas en remontée de végétation, mais si vous examinez bien la majorité des arbustes qui ont assuré la reconquête, c'est des arbustes à fruits, et notamment énormément de piracanta, parce que les jardins à piracanta sont pas très loin, plantés volontairement, bien sûr, mais les oiseaux se régalent des graines de piracanta et vont les caguer ailleurs. Hein? Voilà. Parce qu'une graine passée dans l'estomac d'un oiseau germe beaucoup plus facilement que si vous la plantez volontairement. Les sucs digestifs digèrent la coquille, etc. Donc on a, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ici un exemple de ornithocorie, transport des graines par les oiseaux. Et Max Houquette a écrit là-dessus, évidemment. Et donc, le candidat à la lecture,
il est là,
magnifique.
Verdeja, sem fleuri, amadura sos grenos, et puis de los escampa l'un de los venos del vents, que les enlarga per sanar semena en da comai. Saco espalusa aux cels qu'au fata ve, et que sa vous porta tan luen qui los precios closque, la grana medula que sens au sopre, et per gourmandice, van se mundre causa punte.
Causa punte, d'accord. La façon de vivre des plantes, verdir, fleurir, mûrir ses graines, et ensuite les jeter le long des veines du vent qui les répand pour aller se semer ailleurs. Anémocorie. Si ce ne sont pas les oiseaux qui le font aussi, et qui savent porter si loin le précieux noyau, la petite graine, que, sans le savoir et par gourmandise, ils vont offrir qui sait où. J'attire votre attention sur le choix des verbes « offrir ». Moi, je vous ai dit vulgairement « caguer » parce que c'est ça. Mais voilà, la sublimation de Max Rouquet, c'est ça. Hein, voilà. Donc toujours un concept scientifique merveilleusement illustré. Je ne suis même pas certaine que Max connaissait les termes ornithopori et anémopori. Mais il en savait l'existence, c'était un homme de science, bien sûr, et un homme d'observation. Donc voilà un superbe exemple. Et toujours Max qui vient nous sublimer la réalité. On passe à une autre réalité. Alors, pardon, au passage, pas de citation. La petite boule blanche, là, c'est la badass, hein, Dorycnium pentaphyllum. Première plante mellifère de garrigue, quoique sans odeur. Hein? Oui. Et dont les branches fines servaient aux maçons pour étendre le crépi. Parce que selon la dimension des branchettes, vous avez un crépi très fin ou un crépi grossier. Et ça, ça vous donnait un crépi très fin. La badasse, sans odeur. Et quand c'est tout petit, que ça vient d'être taillé à ras, comme le thym, on peut les confondre. Oui, on peut les confondre. On se baisse, l'une sans, l'autre pas. Voilà. On avance jusqu'au jonc, au bord.
Il y en a quatre au total.
Ah, mais moi, vous en chantez 12, je suis ravie.
Oui. Ah, d'accord, ok. Ah bon. Comme je ne connais pas, je connais le chemin, mais je ne connais pas votre itinéraire.
Voilà. Candidat à la lecture numéro 5. Donc, devant vous, une rangée de joncs. Il n'y a pas plus, je dirais, humble que le jonc. On a du mal à comprendre comment un auteur, un poète, puisse être inspiré par ça. Hein. Alors, le jonc est la signature de terrain humide, systématiquement. Donc, vous voyez qu'en bas, on n'en avait pas. Là, ici, il n'y a pas besoin d'aller fouiller. Il y a de l'humidité et on en verra tout le long des talus, un peu plus loin. Alors, qui c'est qui veut lire l'ode au jonc? Allez. Alors, il s'agit du livre Toute la sable de la mare, tout le sable de la mer, qui raconte l'histoire de la Sibylle, qui en a eu assez de l'éternité de vie que lui a accordé le Dieu, parce que l'éternité, mais elle vieillit, et ça lui déplaît de très, voilà. Et elle demande une dernière faveur, d'être mutée en ses plantes de prédilection. Et comme ça, elle passe par tous les états successifs. Elle est peint, elle est ceci, elle est cela. Et elle demande à être jonc. Alors, qui c'est qui lit? Il y avait quelqu'un, non?
Mikéo.
Allez.
Mikéo.
As-tu,
Mikéo. Abio plogut per vendemios. Ras del camil, lo jonc verdejavon, e quiliabun sas punchos agudos, e l'utéonie alen del ben, il prestava un ogau danzarello.
On a une teine laine d'Elvin. Je pense que c'est la commune de Clapiers qui l'a commandé exprès pour avoir cette petite danse des joncs le long du chemin. Deuxième texte sur les joncs pour la Sibylle. Si tu veux, tu continues. Continue.
La Sibylle mudado in junc e s'inclinava de lungo, balanceggiato per l'Uben, si sumira alle strege di un fontetto. Ero giunc. Un omato di giunc si curvava saltenù sulla fuscur funzido da un miraglio. Benguido giunc si incantava dell'estre. So sul che conto per lo giunc e debiure. E, primie, de paber e la funsa secar. Calar o berio, el, lo giunc, sa spunchos palinejar e pioi sa secar. E lo sec, de la punjo agudo che se clino, sus laigo entre mitan de sas flur e de sas granos, d'abalar doucement per se sarar de son père. Et tout cario sai que sus razix, so que serio l'amour, la mort per elle, si aget junc, et ne cunesquet l'abido, los secrets, los mysteris, que cado estre nescafit, qui sunt trésors per elle, et menudalio per nous autres.
J'avoue que ça m'espante complètement qu'on puisse avoir une inspiration pareille face à ça. Et vous avez ici les punchs qui s'assèquent. Hein, oui. Voyez, mais c'est tout commandé, on a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Voilà, avant ils étaient tout verts. Je dis non, non, pour la citation, il me faut des pointes jaunes. Hein. Voilà. Donc ben, vous avez encore à nouveau tout Max Rouquette dans ce texte-là, une inspiration à partir de rien. Sachant que chez lui, il n'y a pas de gradation dans l'importance des végétaux, pas plus que chez les humains, pas plus que chez les animaux. Tout a la même valeur. Il n'y a pas de petits et de seigneurs, il n'y a pas, voilà. Donc, on a cette ode aux joncs avec, il y a d'autres citations, où il parle des perles de pluie qui s'accroche à la pointe des joncs. C'est exceptionnel, absolument exceptionnel. Du coup, j'ai jamais regardé les joncs avec un estrambord particulier. Hein. Et ben, chaque fois, je me dis, ben oui, mais pense à Max qu'il a su écrire. Voilà, le génie, c'est ça. Hein, le génie, c'est ça. On avance. Alors, au passage, je vais vous insulter un peu. Urosperman dans les champignons pour les grosses composées jaunes. Gueule de loup, voilà.
Et à côté des caisses.
Et à côté des caisses. Mélilo. Mélilo qui servait à désodoriser les tines. Avant d'encuver la vendange, on désodorisait les tonneaux et on mettait des chaînes en fer, ça décollait la lie, et du mélilo pour désodoriser. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des désodorisants chimiques à base de mélilo maintenant. Et vous avez des témoignages, regardez, très intéressant la lecture de paysage. Il y a eu de la vigne acquis. Et voilà, un ancien Mignarès. Voilà, on avance. Et voyez sur votre gauche la multitude de... Un glaïeul encore. La multitude de Piracanta. Un églantier, à nouveau, ornithocori. Hein, il a mangé l'oiseau qu'il a offert à manger un gratte-cul, voilà, et ça repart. La ronce, c'est pareil, c'est mangé par les oiseaux. Les piracantas avancent dangereusement ici. On risque d'arriver à un paysage monospécifique. Alors, si le Cucut veut chanter, là aussi, parce que là, on va avancer directement de 150 mètres.
Jardin. Josiane, vers le jardin d'Agathe, on va le faire.
Dans le jardin d'Agathe.
Pas dans, mais devant.
Dedans, très bien. Alors, au passage, donc, les petites fleurs mauves assimilées à des scabieuses, mais qui sont, sur le plan botanique, des cnotias. Hein ? Regardez les joncs fleuris. Sur votre droite, ils n'ont pas la pointe sèche, donc ils correspondent moins à la citation. Voilà, le silène enflé que vous pouvez faire éclater sur vos mains, le pétarel. Voilà, qui est une salade sauvage jeune également. Voilà, il n'y a pas d'enfant, mais il faut tout. Quand même, vous savez tous faire éclater du pétarel. Sur... Non, pas comme ça, pas comme... Ah ben, il faut éduquer, apparemment,
ben oui.
Il faut éduquer.
Il n'est pas assez mûr.
Il n'est pas assez mûr.
Il pétara de pas.
Ça viendra, ça viendra.
Mais non, mais
ça
il est
y
pas.
Est,
il
est pas. Ça pétara de pas.
Ah, mais c'est pas possible. Attends, non, mais il est là, il le faut très jeune.
C'est pas rigolo.
Voilà. On fait ça et on va essayer. Ça va pas. Il faut en plusieurs, il en faut plusieurs. Des fois ça marche pas.
Faut la foi.
Ça a marché. On regarde le plantain pour faire, parce qu'il me paraît, en bon état là, le plantain, pour faire le projectile.
Ah, ça, j'ai jamais fait.
Ça a bien marché, là, hein. Alors là, les grands-parents, n'est-ce pas, faites faire ça à vos enfants, c'est plus utile que les tablettes. Voilà, alors, je tiens mon épuyer comme ça. Je prends la queue, je fais le tour, je serre très fort les deux tiges rassemblées et je me sers de ça comme... non, ça a cassé. Ah mais c'est la plante qui décide. Hein. Quand il est trop frais, la queue casse. Hein. Et quand il est trop sec, elle ne part pas. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Des restes de terre greppe, la meilleure des salades qui soit. Là, nous sommes sur un talus à terre greppe, terre infertile. Vous voyez, une façon de nommer en occitan en fonction du biotope. Cette salade ne vient que sur des terres infertiles, mais je l'appelle terre infertile.
Laquelle
salade? Ah, tombez pas dans le ravin. Ça, là, ça. Ça, ou les feuilles, là aussi, là voilà, avec les feuilles bleu mauve. Non, ça c'est du plantain. Devant vous, les fleurs jaunes, voilà, vous allez au pied, c'est la terre greppe. Vous avez ici...
Tu m'appelles des anges, là, qu'on soufflait, c'est quoi ça, les plus blancs là.
Ça, c'est énorme, alors, éventuellement, chicorée amère, parce que c'est encore plus amer que la chicorée.
On soufflait ça comme on appelait ça un ange.
Oui, bien sûr, des anges. Vous marchez sur le plantain. Donc le plantain lancéolé a 5 nervures. Donc, herbe des 5 costos. Et alors que le plantain grand a 7 nervures. Donc, herbe des 7 costos. Et c'est une plante vulnéraire très connue depuis toujours. Et utilisée donc pour les blessures. Et elle fait partie des 3 plantes à frictionner quand vous êtes fait piquer par une abeille. Comme statistiquement, il y a du plantain partout. Voilà, forcément, vous tomberez sur du plantain. Alors, il ne faut pas faire ça, hein. Il faut mâchurer, écraser pour faire sortir le sucre et ensuite vous frotter. C'est pour cela qu'on a toujours du plantain représenté sur les tableaux de crucifixion, référence aux plaies du Christ. Hein. C'est des choses à décrypter, ça. Les végétaux sur les peintures autrefois, n'ont jamais été là par hasard. Il y a toujours une signification derrière. D'accord ?
Qu'est-ce qu'il faut comme deux autres plantes à
part ? Au hasard, jusque tu tombes. Le mieux, évidemment, étant la mélisse. Oh là là, oui. Mais la mélisse, il n'y en a pas ici. Voilà. Voilà. Eh bien, oui, mais tu as failli. Non, là, vraiment, tu as failli. Vous avez ici aussi une utilisation intéressante des iris comme tenant les talus. Toutes les vignes en dévers, en talus comme ça, pratiquement toutes, ont été complantées d'iris pour empêcher l'érosion, puisque vous savez que l'iris a des rhizomes souterrains très puissants. Et ça, voilà, ça se lit, ça. Ça se lit. Un paysage, un Hermas qui ne l'est plus. Voilà, moi, ça me fait plaisir de voir que c'est déshermassi. Je me suis dit, peut-être, ça va remonter, l'activité.
Le paysage, des caractères est bon.
Oui, parce que c'est... Ben oui. Donc, vous avez les joncs fleuris, là, à nouveau dans le fossé. en vous faisant remarquer que, étant dans le fossé, ils n'ont pas la pointe sèche, comme on a vu tout à l'heure. D'accord ? Ils sont ouverts. Voilà. Et c'est les joncs ont toujours les tiges rondes. Et moi, j'ai passé ma jeunesse à manger de la moelle de jonc en bas de la queue. Hein, c'est un peu sucré. C'est des amusements d'enfants traditionnels.
On m'avait dit, j'avais une coqueluche terrible et une vieille dame du village avait dit à ma sœur, va lui cueillir des joncs, il fait lui une décoction de joncs.
De où ? Dans quelle région ?
Dans la haute vallée de l'Aude.
Jamais entendu. Voilà un exemple supplémentaire des bibliothèques qui ont brûlé irrémédiablement et dont les savoirs sont perdus irrémédiablement. C'est une horreur. Ça me noue. Voilà, ça me met en colère. Regardez au passage aussi les petites campanules mauves qui sont la floraison des fameux réponchous. Hein, la fameuse salade exceptionnelle qui s'appelle comme ça parce qu'elle fait une petite rave. Hein, on mange la feuille et la rave blanche. Et j'ai une dame qui m'a dit « Ouh !» L'arabe Perieu a goût à Kambadjou. Elle a goût à jambon. Et vous remarquez la construction. Goût à Kambadjou. Les petites. Voilà. C'est ça les réponchons.
Ah, ok.
Voilà, c'est ça de partout. Là. C'est bien des talus. Là, ça. Voilà.
Mais ça ne doit pas être gros parce que dans par exemple, quand on nous dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, des couscous et des responjus. Ça ne devait pas être bien.
C'est que de la salade. Donc ça nourrit guère.
D'accord.
On avance au gré de la volonté du coucut. Chèvrefeuille. Cabrifiuille, rose, étrusca, implexa, pardon, à odeur exceptionnelle. Et regardez éventuellement une floraison. Voilà, regardez les floraisons non ouvertes là-haut. Vous en avez là-haut. Vous avez, on ne voit pas, elles sont que roses. Ouais. Vous les voyez, voilà. Et bien ça. Ça a donné l'image de las manetos, les petites mains. Vous voyez ces petits doigts, voilà. Donc ça, c'est toute la poésie de la phytonymie populaire. Las manetos.
Et c'est du chèvrefeuille.
C'est du chèvrefeuille. Un de nos chèvrefeuilles.
Et ça ? C'est la dame de...
Ornithogale de Narbonne. Ça, c'est la pleine saison. Ornithogale.
C'est la même chose que la dame d'Angers.
Pardon ?
Est-ce que c'est la même chose que la dame d'Angers ?
C'est la même famille, mais c'est pas la même chose. Donc, vous avez sur votre droite à nouveau un Hermas. Et à nouveau ensemencé par les oiseaux. Alors, lecture numéro 10. Non, 11. Candidat. Alors, je m'y colle. Tourner et passa d'inus silenci dels astres, luscans hermasits, tapa d'arunzes et des cades. Je repassais dans le silence des astres, les champs en friche, couverts de ronces et de cades. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début. Et un Hermas, qu'est-ce que c'est ? Candels catrevens, un Hermas qui n'ouïs pas d'autre boulière que l'horizon del ciel. À quel Hermas est-ce un désert ? Voilà. L'horizon du ciel, nous l'avons. On ne tourne pas trop les yeux à gauche pour ne pas voir les maisons. On reste comme ça et on a l'Hermas face à l'horizon du ciel. Et nous avons également deux explications fondamentales, la différence on le verra après. Alors on arrive à au stade où, oui, demandez.
Orchidées,
alors ce sont les dernières orchidées à fleurir, hein, Anacanthis pyramidalis, rose derrière le grillage. Pyramidalis parce qu'elles ont une floraison en pyramide, très caractéristique, devant non pas des aloés mais des agaves, confusion permanente que font les gens, au-dessus ici un azérolier, j'ai pas de texte de Max Rouquette sur les azéroliers, sinon je vous aurais mis un, c'est-à-dire une aubépine très 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 grosse avec des fruits à goût de pomme, donc d'où le nom de pommettier, hein, ou pommette pour les fruits dont on fait de la gelée exquise. Voilà, des trèfles, réoulés, roses. C'est ça, les reponchos, c'est ça. Campanula rapunculus.
Il y a de l'herbe.
Je vous demande de regarder de près les énormes fleurs jaunes que vous appelez fleurs. Oh, une fleur. Non, sans fleurs. C'est pour ça que la famille, c'est les composés, maintenant baptisés astéracées. Donc sur un réceptacle comme vous avez là, vous avez une centaine de fleurs. On regardera en détail si on a le temps tout à l'heure. Il y a tellement de choses à dire que je voudrais d'abord assurer la partie Max Rouquette.
Les astères, c'est ça?
Azérolier, c'est l'aubépine en arbre plus gros. Donc voilà un exemple d'envahissement monospécifique par les Pyracantha. Hein. Et d'ailleurs, à l'occasion, petite remarque lexicale occitane, la tendance de tous les occitanistes qui ont abandonné leur langue, c'est de se caler désastreusement sur le français et de dire le Pyracantha. Le bégonia, le mimosa, ça me met hors de moi, hein, hors de moi. Toutes les langues romanes disent la mimose, la bégogne, la camélio, et pas le camélia. Et en l'occurrence, la pyracanthe, qui était déjà dans le dictionnaire d'Émile Garcin provençal de 1830. Alors merci de suivre les règles de notre langue qu'on a dans les veines et avec des témoignages souvent anciens.
J'achète une seringue et je leur mets dans les veines.
Je m'en doute. Voilà. Alors on pourrait s'amuser à former le néonogisme Vaki une Hermas. Empyracantha. Eh bien oui. Sempyracantha, se couvrir de pyracanthe. Ça c'est. Et vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation d'un académicien, d'un linguiste, de Paul Valéry. Et gna 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 gna. Voilà. Je sais pas ce que tu dis, mais tu dis de mauvaises choses dans mon dos. Alors.
Et les roussillons,
le coucut. On va entendre non pas le roussillon, mais le coucut. Allez.
Le coucut 4.
Ah, le coucou de canton, ici.
Ici. Ariane.
Jean-Pierre, n'est pas la présentation ?
Hein ? Philippe ? Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ariane.
On présente ?
Vas-y.
Bon.
Alors, une autre chanson à partir d'un poème de Max Rouquette, Ariane. Alors, tout à l'heure, il y avait la Sibylle qui nous renvoyait donc à la culture classique. Bon, Max Rouquette, il a la culture scientifique de son métier, mais il a aussi la culture classique des gens qui, à l'époque, des quelques-uns, 7% à peu près, qui faisaient des études secondaires. Et donc, il peut parfaitement manier les mythes, les grands mythes, et notamment celui d'Ariane. Alors, est-il besoin de présenter Ariane ? C'est la dame qui aide Thésée, une fois qu'il a réussi à tuer le Minotaure, ce qui n'est pas rien, à sortir du labyrinthe grâce à un fil, le fil d'Ariane. Et puis, Thésée, qui est spécialiste des distractions fatales, il fait une escale sur une île et puis très bêtement, il oublie Ariane. Et donc, Ariane va passer l'éternité à attendre que Thésée revienne. Et bien entendu, il ne reviendra pas parce qu'il a rencontré Médée en passant. Et donc, ça donne une chanson, un poème, qui est un poème un petit peu comme le précédent, hein, la Peyrelis. C'est une chanson d'amour perdu. Une chanson d'amour perdu. Et sans espoir, sans espère et sans espera, sans espoir et sans attente, le temps ne compte plus, exactement comme une pierre traverse le temps sans n'avoir aucun espoir non plus. Alors on va trouver aussi une des métaphores préférées de Max Rouquette, qui est le désert, que nous avons entrevu récemment dans une autre citation, qui est le prolongement en quelque sorte de l'Hermas. D'une certaine manière, la fin ultime de l'Hermas, c'est le désert, le vide absolu et donc le désespoir total.
Kaluka nous a daïsat, kalamar sezenanado,
esbegul à l'horizon.
Ariane abandonado, amoroso del embrado,
que la gacha o pena o ser, de mora qui se desespero, e qu'a perdu.
La pauvre como la peiro primiero que despió la boda mu
sens espero sens espero dai salumo passaggero sens espero sens espero già mai conto padru te Sabudis la parola, la perduto es la parola, la perduto es la parola.
Merci.
Alors nous avançons jusqu'à un arbre bien connu de tous. Et beaucoup célébré par Max Rouquette, pardon, qui est l'amandier. Je vous demande de regarder à nouveau l'envahissement de la végétation. On fait une lecture de paysage et on commence par dire « Ah, il y avait de la vigne ». Vous la voyez, les feuilles de vigne qui reprend sa place de liane. Il ne faut jamais oublier ça, hein. La vigne, c'est pas taillé, c'est une liane. Il y en avait une, il n'y en a plus. Qui c'est qui a assuré la reconquête ? Alors là, nous avons des arbustes à graines laurietin et du pyracantar, donc ornithocorie. Mais si je regarde les autres, je vois du pin et je vois derrière, bon, vous ne pouvez pas le voir, sauf ceux qui sont un peu férus en botanique, c'est de l'orme. D'accord. Or, le fruit de l'orme est ce qu'on appelle naken et ailé, donc une samare. Et ailé en rondelle. Et donc, nous avons ici les fruits du pain qui sont aussi ailés. Donc, nous avons deux exemples ici d'anémochorie mélangée à l'ornithochorie. Les grands ensemenceurs de la planète, comme dit Max Rouquette. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle faire une lecture de paysage. Dans 40 ans, ça risque d'être que des pins, et la strate en dessous, faute de lumière, aura disparu. C'est fort possible.
En tout cas, ça sera endormi, Béléo.
Jusqu'au prochain incendie, qui va éradiquer les pins et qui va faire la reconquête assurée par des plantes pionnières et post-pionnières. Ça peut être ça, l'histoire des paysages.
Vire le moulin.
Vire le moulin. Voilà. Alors, l'amandier est au bout du chemin et on va voir deux très belles citations. Qui correspond encore à la citation de Max Rouquette. Citation numéro 6. Allez,
le papier. 6.
6.
Aquelas tres aubres de la rusco negro torcian sus braces dins l'ucel e sabis pas per cante emmascamen lo primi y espelicio de flurs de neu te unios e que tremulaban al ben gelus abans de retraire en se nanan sus lo sol lo bol embriagat d'en parpaliu.
Voilà. Donc, qui n'a pas vu les fleurs de mandier par le Maine dans Ventoulet, s'en aller au sol comme des papillons. Et il y a plein de citations de Max Rouquette sur les amandiers, où il note toujours la rusque nègre, toujours cette écorce noire, et les brasses toursutes. Alors là, je veux dire, là aussi, ça a été commandé par la mairie de Clapiers. Donc ils sont bons quand même majoritairement. Ils ne nous ont pas mis certaines plantes, mais là c'est magnifique. En remarquant que l'amandier chez nous est, quoique non originaire d'ici, mais du Moyen-Orient, est un marqueur culturel sur le plan saison qui tourne. Vous avez encore et toujours, et ça me fait plaisir, quelqu'un pour vous dire, tu as vu, l'amandier de est en fleur. Et ça fait plaisir. Hein. Donc c'est messager du printemps, mais on dit aussi imprudent comme un amélier. Imprudent comme un amandier. Parce que des fois, il s'y croit, c'est le printemps, et puis pop, vous avez le petit gel derrière qui vient tout ruiner. Voilà. Donc, vous reporterez à Max Rouquette pour les autres citations. Par contre, pour la suivante, ça va être difficile parce que on va faire par groupe autour de cette pierre. Voilà. Ça aussi, on a mis du temps à la repérer. Voilà. Là, on va voir les deux. Voilà. Alors, on démarre par quoi ? Oh, vous n'avez peut-être pas besoin de vous approcher pour voir que le tronc d'amandier est couvert de plaques grises. D'accord ? Donc, ce sont des lichens qui n'endommagent pas l'arbre. Et on parle de lichens corticoles accolés aux écorces. Parce que chaque lichen, enfin beaucoup de lichens, ont des supports de prédilection. Il y en a qui ne sont que sur rochers, on dit saxicoles. Il y en a qui ne sont que sur écorce, corticoles. Ensuite, vous avez trois formes différentes de lichen. Le lichen foliacé, qui ressemble à une feuille. Le lichen crustacé, qui ressemble à une croûte. et le lichen suffrutescent, il n'y en a pas ici, qui ressemble à un petit arbuste avec des ramifications. Donc Max Rouquette a évoqué aussi les lichens, toujours à propos de la sibylle. Et donc il parcourt les grands arbres, les joncs, les petites herbes, la mauve, le machin, nanana, pour finir en lichen. Alors on va s'approcher, on fait deux groupes si vous n'y voyez pas, mais nous allons regarder ces lichens saxicoles crustacés, d'accord, et candidats à la lecture du texte numéro 7.
Des traces.
Ero venuto di nomeno di Musso, come d'argent, sec e senza di sabo che nasaghe lus fiols. Se si può parlare di fiols, quando l'ulichen è senza forma assicurata. E soprattutto, tan estreccio men ligato alla peiro, che smalaisi de saupri cau nuiris l'autri, la peiro o l'ulichen.
Voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. Encore une fois, la sublimation, en vous rappelant que le lichen est l'association d'une algue et d'un champignon. Ce qui interpelle énormément, parce que ça veut dire que nous sommes à cheval sur deux règnes. Je vous rappelle que les champignons ont été sortis du règne végétal et classés dans un règne à part, les fungi, la fonge, traduit en français. Donc voilà un organisme qui est à cheval sur les plantes, une algue, et sur la fonge. Ça interpelle. Et donc ce lichen, sorte de mousse, vous regardez ici, vous avez même les deux. Un peu de mousse ici, et là que du lichen crustacé, blanc. C'est pas de la pollution, hein, je précise. Vous en avez plusieurs d'ailleurs là de lichen. Et sans forme assurée, ben oui, hein, ça grandit et ça pousse comme ça veut. Et surtout étroitement lié à la pierre, qu'il est mal aisé de savoir qui nourrit l'autre. Alors en l'occurrence, là, Marx se trompe parce que le lichen ne se nourrit pas de la pierre. C'est son support, hein, mais il ne se nourrit pas. Mais le poète a le droit de nous faire ce genre d'intervention comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'il est allé fouiner, Marx, depuis les grands pins, les grands ruisseaux, jusqu'au moindre lichen. Et évidemment, quelle va être l'étape suivante pour la sibylle, puisqu'on a parcouru toute la végétation, la peyre. Et donc la fin du roman s'achève, la sibylle est devenue une pierre. Peut-être celle sculptée sur le cosse et qui donne d'air de loin à un animal, à une bête étrange. Donc on a tout le parcours, je vous recommande la lecture de ce texte, qui est exceptionnel, absolument exceptionnel, donc comme toutes les œuvres de Max Rouquette. Mais si vous voulez, moi, en tant qu'ethnobotaniste, évidemment, c'est pas souvent que je tombe sur des hommages aux lichens comme ça. Et regardez les lichens, j'avais fait, il y a très longtemps, mais je fais des millions de choses, donc j'ai pas toujours le temps de poursuivre, j'avais fait une expo photographique avec des lichens. Je suis d'une incompétence totale sur les lichens, comme tous les botanistes. C'est une spécificité. On est lichénologue et pas autre chose, tellement c'est compliqué. Hein, il y a des milliers de lichens, des milliers. Mais moi, j'avais travaillé le côté fantasmagorique, avec des titres qui renvoyaient à ce côté complètement descabestrate que peuvent prendre les lichens. Et l'ami Alain Rouche, de l'IEO à Carcassonne, m'avait invité à présenter cette exposition de photos et il m'avait dit, mais je t'amène aussi les élèves de Calandrette. J'ai les cheveux droits sur la tête, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des élèves de Calandrette sur un sujet aussi évanescent comme ça, où je ne peux pas expliquer, voilà. Eh bien, j'y suis allée quand même, je leur ai dit corticole, saxicole, frutescent, crustacé. 6 mois après, ils avaient tous gardé en tête le lexique. Et j'en ai déduit que des fois, on se retient, les adultes, par rapport à la complexité du lexique, et qu'en fait, les enfants peuvent le vivre comme des bonbons, des friandises lexicales. Et 3 ans après, ils s'en rappelaient encore. Donc, ils étaient passés par les classes supérieures, comme quoi, hein, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les lichens crustacés parce qu'ils sont trop loin, venez les voir de près. Et on ne sait pas qui nourrit l'autre, la pierre ou le lichen. Alors ça, ce sont des lichens crustacés corticoles, foliacés corticoles. Ils n'ont pas la forme de croûte,
ouais.
Ils ont la forme de feuille.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais,
voilà.
C'est
ça. Et attaché à une écorce.
Voilà.
Et là, il n'y a pas de suffrutescent. Par contre, vous allez dans les goales, vous avez les lichens qui pendent, les usnées. C'est ça qu'on appelle des lichens suffrutescents. D'accord ? Mais il n'y en a pas en basse plaine.
Des rappelables, là, l'ombre de Max Fouquet, le titre de l'ombre du texte.
Toute la sable de la mare. Ouais. Olivette. Eh ben Oh, écoutez, on est bien à l'ombre. Je ne vous ai pas donné une grosse citation parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y en a une où il parlait de la combe des roses et estimait qu'elle n'était pas en situation. Donc, en face, une olivette que j'ai connue, qui descendait plus loin. Et ce qui était intéressant, c'était culture associée avec la vigne. Et ça, c'est fondamental dans les textes anciens. On a systématiquement ça. Ce qui fait que nos écologues, à l'heure actuelle, s'espompissent parce qu'ils croient avoir inventé la notion de culture associée. J'ai ça dans les archives depuis le XVIe siècle. Alors, oh, la culture associée, les nouveaux snobismes, hein, on ne t'a pas attendu. Et nos ancêtres le savaient, et d'autant plus que, déjà chez les Romains, la vigne était plantée dans les oliviers et grimpée dans les oliviers. Nous, on en a fait un arbuste bas, mais c'est une liane. Hein. Alors, juste, oui.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
Pardon ?
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
Parfait résumé de la chose.
Et un maillot cocute, elles ne sont pas la mitad d'une couille.
Ouais. Alors, que dit Max Fouquet ? Là, quand même, là, si, un tout petit peu, il manque un soupçon de vent supérieur. Là, la mairie, elle pourrait faire quelque chose. Hein, oh, voilà. Regardez, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? L'oliu, am sus dets grises, dit des O et des noms au vin. L'olivier, avec ses doigts gris, dit oui, dit non au fil du vent. Regardez comme c'est beau, parce qu'effectivement, le dessous des feuilles d'olivier est gris, le dessus est vert, et Max le transpose en dire oui, dire non. Hein, c'est splendide. Voilà. La pinède, on la verra plus loin. Ça, on peut la voir là aussi, si vous voulez. Encore que non, on va jusqu'au bout parce qu'il y a la mauve. Allez, en avant!